Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Simple et Cité, le podcast pour une vie plus simple et sereine dans le monde moderne. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler plus en détail d'un mythe très répandu autour de la simplicité. Un mode de vie minimaliste serait une vie de privation et de frustration. Depuis plusieurs années que je tiens un blog sur le sujet, et depuis que Simple et Cité a été lancé, je réponds parfois à des questions informelles ou à des interviews de journalistes sur la simplicité urbaine, et l'une des questions qui revient le plus souvent est « Mais vous ne vous privez pas avec ce mode de vie? C'est pas un peu chiant finalement de vous empêcher de consommer et de vous faire plaisir quand vous en avez envie? Le minimalisme, c'est pas une forme de privation quelque part ?» Alors la réponse courte est « Non, je ne me prive pas. » Et « Oui, je me fais plaisir quand j'ai envie. » Au contraire, je trouve ma vie plus légère, plus riche et plus épanouie grâce à la simplicité. Et dans cette émission, je vais vous proposer des pistes de réflexion sur le pourquoi le minimalisme, la simplicité volontaire ou encore la sobriété heureuse parmi les noms qui sont donnés à ce type de mode de vie, cela n'a rien à voir avec la privation. Pour moi, le minimalisme s'approche finalement beaucoup plus de la philosophie de l'essentiel, que l'on retrouve notamment dans la culture japonaise. Par exemple, dans l'art de l'arrangement floral que l'on appelle ikebana, cela consiste essentiellement à mettre en avant une seule fleur. En réduisant le bouquet à son essentiel, donc une seule fleur, avec une décoration qui va la mettre en valeur, c'est l'essence même de la fleur qui est portée sur le devant de la scène. Là où un bouquet de 50 fleurs va noyer la beauté particulière de chacune d'entre elles dans la masse, eh bien lorsqu'on réduit à l'essentiel, on apprécie d'autant plus d'observer l'essence de cette unique fleur, sa beauté qui nous apparaît mieux et nous procure davantage d'émotions, que ce soit de l'admiration, de la contemplation, de la joie, etc. Un autre exemple de l'essentiel dans l'art japonais, c'est l'art du poème court, qui ont d'abord été les tanka, puis les haïkus qui sont plus courts encore. En trois vers de 5, 7 et 5 syllabes, on retranscrit un instant, une image, une émotion, qui s'en retrouve exacerbée par le peu de mots qu'il a décrit. Je pense que c'est la même chose pour l'acquisition d'objets. Si vous achetez 50 objets dans le mois, chaque nouvel achat est perdu dans les 49 autres. Et la joie d'avoir ajouté cet objet dans votre vie se dissipe très vite, parce que vous portez tout de suite votre attention sur l'achat suivant. En d'autres termes, plus vous en avez, moins vous retirez d'appréciation ou de joie de chaque objet pris individuellement. Surtout si vous en avez bien plus que ce que vous utilisez réellement ou ce dont vous avez besoin. Les objets deviennent ordinaires, banals, et le pic d'émotions positives liées à la recherche, à l'attente, à l'achat de nouveaux objets est court et peu intense, puisque c'est si ordinaire pour vous d'acheter de nouvelles choses. Alors que si vous achetez beaucoup moins d'objets, en étant plus sélectif, en prenant le temps de les désirer, de les chercher, de mettre de l'argent de côté pour le payer comptant par exemple, au lieu de faire un prêt à la consommation si c'est un objet coûteux, alors la joie que procure son acquisition est bien plus longue, bien plus intense et quelque part bien plus saine, parce que ça va être une joie qui va être liée à l'objet lui-même et pas à cette espèce de pic de dopamine qui est lié à l'acquisition d'un objet, quel que soit l'objet finalement. Alors premièrement, le processus d'attente, de recherche et de sélection est un moment vraiment agréable pour beaucoup d'entre nous. Rappelez-vous du matin de Noël, si vous faites partie d'une famille qui fête Noël, ou de votre anniversaire par exemple, ou toute autre célébration où vous anticipez le fait de recevoir des cadeaux. Finalement, cette attente impatiente de découvrir les cadeaux fait partie intégrante de l'expérience, et c'est presque un moment plus agréable qu'une fois que les cadeaux sont ouverts et que les objets sont dévoilés. Lorsque vous menez une vie plus simple et que vous consommez plus intentionnellement, cette période qui précède l'achat est souvent plus longue aussi, parce que vous allez rarement rentrer dans un magasin, trouver un objet qui vous fait envie, et puis l'acheter tout de suite sans vous poser de questions. Ça peut arriver, bien sûr, lors d'une rencontre fortuite avec un objet qui est parfaitement adéquat, mais de manière générale, lorsque vous menez une vie plus simple, le peu que vous consommez est davantage réfléchi. Et pour trouver un objet qui vous est adéquat, qui est adapté à votre mode de vie, au niveau de la qualité, de l'éthique, de l'esthétique et de l'utilisation que vous comptez en faire, c'est forcément un processus qui va être un petit peu plus long. Alors, personnellement, je ne suis pas une grande adepte des listes de vœux d'achat ou de planification poussée d'achat de nouveaux objets, parce que je préfère dériver mon énergie vers autre chose que la consommation. Cela dit, il m'arrive quand même de devoir combler un besoin matériel, et j'ai remarqué que ce plaisir de la chasse, de la découverte et de l'anticipation de l'achat font vraiment partie intégrante de l'expérience et m'apportent bien plus de joie qu'à l'époque où j'achetais sans réfléchir et où je revenais avec des sacs de choses après une après-midi passé en ville. Et où du coup, chacun de ces objets achetés un petit peu sans réfléchir n'avait pas tant d'importance que ça pour moi et je les avais vite oubliés dans un coin. Donc ça, c'est une première chose. C'est-à-dire que quand vous menez une vie plus simple, si le matériel et les objets, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous procure du plaisir, eh bien sachez que le fait d'anticiper un achat, de se limiter dans ses achats et du coup d'attendre avec impatience peut apporter énormément d'anticipation, de joie, de plaisir, etc. Ensuite, nous ressentons généralement une certaine excitation à utiliser un objet nouvellement acquis. Par exemple, nous avons hâte de lire le nouveau livre, porter les nouvelles chaussures, installer de nouveaux tableaux, etc., etc. Et bien là aussi, je trouve qu'une vie plus simple prolonge ce plaisir. Puisque les nouveaux achats sont plus rares, l'objet reste nouveau plus longtemps, par exemple que si on en rachetait un nouveau une semaine après. Puisque du coup, l'objet n'est pas détrôné par un nouveau désir d'achat tout de suite, il n'est pas détrôné par un nouvel achat tout de suite. Je prends vraiment le temps de profiter de ce nouvel achat, de me dire c'est trop bien, je suis trop contente d'avoir trouvé ça, en plus il est super joli, il est de super qualité, je vais le mettre ici, je vais l'utiliser comme ça, c'est trop bien, c'est trop bien. Voilà, et ça va durer quelques jours, quelques semaines, peut-être même quelques mois, puisque mon esprit ne va pas immédiatement se tourner vers le désir suivant. Je vais vraiment prendre le temps de profiter de l'objet que je viens d'acheter. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que même des mois et des années après l'achat, les objets que j'ai sélectionnés, que j'ai trouvés, par exemple au détour d'un voyage ou d'une rencontre, m'évoquent encore toutes ces expériences auxquelles ils sont rattachés. Quelque part, ils ont une histoire, les objets, parce que j'ai pris le temps de les choisir, j'ai pris le temps de les trouver, j'ai pris le temps de les acheter, et puis comme j'en achète moins, je m'en souviens de leur histoire. Et donc du coup, je suis super contente de les utiliser au quotidien parce qu'ils me rappellent l'histoire, le contexte, l'environnement dans lequel je les ai achetés. Ils sont de bonne qualité, donc ils vieillissent bien. Et du coup, même quand c'est plus du tout nouveau, que ça fait très longtemps que je les ai, eh bien je continue à prendre énormément de plaisir à les utiliser ou à les regarder si c'est des objets de décoration ou à les porter si c'est des vêtements, par exemple. Alors que c'était beaucoup moins le cas avant, quand j'achetais sans trop réfléchir des tas d'objets qui n'étaient pas forcément de bonne qualité, dont j'oubliais parfois la provenance, dont j'oubliais parfois l'existence. D'ailleurs, ça peut arriver quand vous stockez plein d'objets dans une cave ou dans un garage. Peut-être vous oubliez que vous les possédez. Et là, c'est beaucoup moins le cas. Et j'ai remarqué que le plaisir d'utilisation de justement cet essentiel d'objets que j'ai gardé autour de moi est bien plus intense qu'auparavant. Un exemple concret, c'est que je prends bien plus de joie, par exemple, à boire mon thé dans la tasse qui a été faite par une céramiste en utilisant un procédé qui s'appelle Raku, qui est un procédé japonais, où quand j'ai acheté cette tasse-là, elle m'a expliqué comment elle l'a fabriquée, elle m'a expliqué tout son processus artistique, pourquoi elle était super contente de ces objets-là, parce qu'en fait, en cuisant, ils prennent eux-mêmes des formes et des couleurs, c'est pas elle qui décide, en fait. Et elle adore ce côté un petit peu aléatoire. Et en fait, je me souviens de la passion avec laquelle elle a parlé de cette tasse, et puis évidemment, j'ai acheté une tasse qui fait la bonne taille, qui est super jolie, et du coup, je prends vraiment un plaisir à la choisir et à mettre mon thé dedans et à boire mon thé au cours de la journée en travaillant, là où à l'époque où j'utilisais des tasses que j'avais achetées à Ikea par exemple, au milieu de plantes et de lampes et de machin, vous savez ce que c'est quand on va à Ikea, eh bien je n'avais pas forcément le même plaisir à boire mon thé dans une tasse Ikea que je ne ressens de plaisir aujourd'hui à boire mon thé dans ma tasse Laku donc. Donc ça, c'est un exemple pour vous montrer que lorsque vous menez une vie plus simple et que vous avez moins d'objets chez vous, ça ne veut pas dire pour autant que vous menez une vie d'ascèse et que vous vous privez, que c'est affreux, que vous dormez par terre. Vous pouvez tout à fait vous entourer d'objets qui vous plaisent, qui sont de bonne qualité, qui ont une histoire, qui sont des souvenirs pour vous, et vous pouvez tout à fait prendre un grand plaisir à les utiliser au quotidien, même si vous en avez. Donc ça, c'est ce qui concerne l'idée selon laquelle un mode de vie plus simple nous priverait du plaisir d'acheter et d'utiliser des objets, nous priverait du plaisir de consommer finalement. Et personnellement, comme je viens de vous l'expliquer, je trouve qu'au contraire, le fait de réduire à l'essentiel met en valeur le peu d'objets que vous choisissez d'acheter et de garder. Et du coup, ça va exacerber, de la même manière que un arrangement floral avec une seule fleur exacerbe l'essence et la beauté de cette fleur, et ben là c'est pareil, le fait de réduire à l'essentiel, d'avoir moins d'objets, ça va exacerber la joie de les chercher, de les acquérir, de les entretenir, de les utiliser au quotidien. Et l'expérience de l'utilisation des objets est de bien meilleure qualité, bien plus saine, en tout cas dans mon expérience personnelle de la simplicité urbaine. Enfin, un autre aspect que je souhaitais évoquer autour de la question du minimalisme et de la privation, c'est celui de la privation dans le sens se brimer, s'empêcher de répondre à un désir d'achat, se brider, se forcer à mener une vie d'ascèse et de restriction permanente, de se restreindre en fait. Et c'est la privation dans le sens vous avez envie de faire plaisir, vous avez envie d'acheter, et puis vous allez faire le rabat-joie et dire « Ah bah non, c'est pas minimaliste, c'est pas de qualité, c'est pas fabriqué en France, c'est pas machin, c'est pas truc. » Et qu'en gros, vous pourrissez la vie parce que vous vous empêchez de vous faire plaisir, en fait. Et ça, c'est un argument que j'ai souvent entendu au cours du cheminement de mon partage autour d'une vie plus simple. Et donc, ce que j'ai envie de vous proposer par rapport à cette idée-là, c'est que effectivement, dans ma volonté de mener une vie plus simple, je n'achète pas tous les objets qui me font envie en première apparence. Et je vais pas, par exemple, je rentre dans un magasin, je vois un objet que je trouve très mignon. Peut-être que par le passé, si l'objet était d'un tarif raisonnable, je l'aurais mis dans mon panier, je l'aurais acheté sans trop me poser de questions en me disant « Ah bah c'est joli, c'est mignon, j'aime bien, je vais l'acheter. » Aujourd'hui, j'aborde les choses différemment, puisque je suis devenue une consommatrice plus avertie, plus intentionnelle. Et admettons que je vois un joli vase dans un magasin qui correspond bien à mon esthétique et tout ça. Eh bien, au lieu de le mettre dans mon panier sans réfléchir, je vais avoir tendance à me demander « Ah ouais, mais en fait, comment est-ce qu'il a été fabriqué? En quelle matière est-ce qu'il est fait? C'est quoi les finitions? Est-ce que les finitions sont de qualité? Ou est-ce qu'il a l'air d'avoir des endroits où ça va être fragile? Est-ce que c'est un produit de qualité? Est-ce que son prix est en accord avec le lieu de fabrication, avec la matière, avec la qualité? » Parce qu'on pense aux objets qui sont tout pourris, qui sont pas chers, mais il y a aussi des objets qui sont absolument hors de prix, alors parce que c'est des marques connues, alors que les finitions sont atroces. Je suis allée d'ailleurs il y a quelques semaines au Bon Marché, et j'ai trouvé le Bon Marché, pour ceux qui connaissent pas, c'est une grande enseigne de grands magasins à Paris où il y a beaucoup de touristes qui viennent parce que contrairement à ce que son nom indique, c'est pas bon marché du tout. Et en fait, je suis tombée sur une marque de jeans qui faisait des jeans, alors non seulement des jeans qui sont troués, après chacun ses goûts, mais en tout cas il y avait des trous, et du coup des trous où il n'y avait pas d'ourlet, où il y avait des fils qui pendouillaient, je vous dis pas l'état du jean après 2-3 lavages quoi. Et en plus le jean n'avait pas d'ourlet en bas du pantalon, c'est-à-dire que c'est comme si le truc avait été coupé, et où pareil, vous avez les fils qui pendouillent, je vous dis pas, déjà c'est mauvaise finition, c'est mauvaise qualité, et je vous dis pas dans quel état se retrouve le jean au bout de quelques lavages, parce que c'est pas pour rien que les ourlets existent sur les vêtements. Le machin coûtait 300 euros. Donc à un moment, le fait de regarder un petit peu la qualité, les finitions, les matières, les choses comme ça, ça aide aussi à se dire « je vais pas me faire avoir en payant 300 balles un jean qui est même pas fini, quoi ». Donc là, c'est un exemple, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Si vous aimez les jeans pas finis à 300 euros, c'est votre décision, je ne juge pas. C'est simplement une petite anecdote pour vous montrer que quand on regarde l'état d'un objet, sa qualité, etc., c'est pas seulement pour arrêter d'acheter des objets de mauvaise qualité qui coûtent pas cher et qui vont casser rapidement. C'est aussi pour avoir un esprit plus critique sur le fait que parfois le marketing nous fait avaler de sacrées couleuvres et nous fait acheter très cher des trucs qu'ils ont pourraves. Voilà. Donc du coup, moi j'ai vraiment acquis avec le temps cet esprit critique autour des objets. Et si le vase en question, par exemple, pour venir à mon exemple du vase, si je me rends compte que l'imprimé qu'il y a dessus va très vite se décoller parce que par exemple il commence déjà à se décoller dans le magasin, etc., bah, je vais le reposer et je vais pas avoir envie de l'acheter en fait. Je vais me dire, ok, il est joli ce vase, mais c'est pas de la bonne qualité, je saurais pas où le mettre chez moi, il va vite se dégrader, donc j'ai pas envie. Du coup, je ne me prive pas, puisque je ne m'empêche pas d'acheter le vase. Après l'avoir observé sous toutes ses coutures, je n'ai plus envie de l'acheter, donc ce n'est pas de la privation. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que j'achète moins, c'est vrai, mais le fait de réduire ma consommation, je ne le vis pas comme une privation. Pour vous expliquer ça un peu plus en détail, posons-nous la question de qu'est-ce que c'est que la privation ? Ça veut dire quoi se priver ? Se priver, ça veut dire avoir envie de quelque chose, le désirer profondément, mais se retenir, s'empêcher de l'acheter ou s'empêcher de le faire. Comme une sorte de lutte intérieure entre une partie de votre cerveau qui veut absolument acheter cet objet et une autre qui dit « ah bah non, j'ai pas d'argent » ou « je mène une vie plus simple, faut pas que je l'achète, faut pas » et puis du coup vous allez faire appel à votre volonté pour vous restreindre et pour vous empêcher d'acheter quelque chose que vous avez envie d'acheter. La privation, ce n'est pas le fait objectif d'acheter moins. La privation, c'est le fait d'avoir très envie d'acheter et de s'en empêcher. C'est un peu le même principe que lorsque vous faites un régime alimentaire qui est basé sur le fait d'enlever certains aliments de votre alimentation. C'est la même chose. Si vous adorez le chocolat, mais que la nutritionniste a déclaré que vous n'avez pas le droit d'en manger, ça va être la bataille intérieure dans votre tête à chaque fois que vous allez au resto et que le serveur va apporter la carte des desserts et que votre copain ou votre copine va commander un moelleux au chocolat, vous voyez. Par contre, si vous faites partie des gens qui n'aiment pas le chocolat, il y en a, si. Si vous faites partie des gens qui n'aiment pas le chocolat, même si le serveur vous apporte la carte des desserts et même si votre compagnon de table se commande un super moelleux au chocolat, vous n'allez pas en avoir envie puisque vous n'aimez pas le chocolat. Donc, vous n'allez pas vous sentir privé de dessert puisque vous n'avez pas envie de manger un dessert. Donc je vais pas vous parler de nutrition et de régime privatif aujourd'hui, c'est pas le sujet. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est le même raisonnement pour la surconsommation. Si vous n'avez plus envie de surconsommer, alors ce n'est pas de la privation. Et donc, à mon sens, l'un des avantages principaux de la simplicité, c'est que justement, vous changez votre rapport à la consommation, et du coup le désir brûlant de nouveauté s'estompe. Vous n'en avez plus envie. Parce que souvent, en fait, c'est qu'on consomme comme une sorte de thérapie. C'est-à-dire aller acheter des objets, aller acheter quelque chose de nouveau, c'est une sorte de remède pour étouffer une émotion négative ou pour éviter de se poser des questions inconfortables ou pour évacuer une frustration parce qu'on a passé une mauvaise journée. Enfin, c'est le cas typique d'aller vous récompenser à la fin de la semaine en allant vous acheter un joli petit truc au centre commercial parce que vous avez passé une semaine pourrie au travail, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle utiliser la consommation comme un pansement, quelque part, pour combler des besoins émotionnels ou des frustrations émotionnelles, pour vous distraire ou pour combler un besoin qui n'a rien à voir avec l'objet. C'est juste que vous allez utiliser l'objet comme une sorte de pansement ou d'échappatoire face à quelque chose qui n'a rien à voir. Et ça, c'est tout à fait normal et c'est un comportement qu'on a tous eu et qu'on a tous encore. C'est un comportement que j'ai encore parfois quand je vais pas bien, malgré le fait que ça fait 10 ans que j'ai simplifié ma vie. Parce que c'est ainsi que la société de consommation nous a appris à gérer la frustration et à gérer nos émotions qui sont parfaitement humaines. Vous voulez du bonheur, ouvrez une canette de soda. Vous voulez être aimé, achetez un déodorant qui va attirer toutes les filles. Vous voulez une famille unie, buvez cette super boisson au café à la chicorée le matin. Vous voyez, on nous apprend à traiter nos émotions à travers les objets. Donc c'est tout à fait normal qu'on se retrouve dans une situation où on surconsomme, non pas parce qu'on a envie des objets, mais parce qu'on a envie de combler une émotion, de combler un manque, de combler un vide qui n'a rien à voir avec le matériel. Et en fait, lorsque vous menez une vie plus simple et que vous faites ce travail de remettre les objets à leur juste place, vous apprenez à dissocier le désir d'objets concrets, matériels, du besoin émotionnel qui se cache derrière. Et en fait, quand vous arrivez à faire cette dissociation et à vous rendre compte que non, en fait, la petite robe, vous n'en avez rien à faire, tout ce que vous voulez, c'est décompresser après une mauvaise semaine de travail. Quand vous remettez ça dans votre conscience, en fait, le désir d'acheter s'estompe. Donc du coup, en menant une vie plus simple, vous ne vous privez pas puisque vous n'avez plus envie de surconsommer. Alors si vous voulez aller plus loin dans toutes ces questions autour du rapport entre les objets et les besoins, on en a parlé dans l'émission numéro 5 de simplicité. Donc je vous invite à retourner l'écouter ou à aller l'écouter si vous ne l'avez pas encore écouté, si le sujet vous intéresse. Et on reviendra plus en détail sur la question de la place des objets dans la société de consommation et notamment le lien avec la gestion des émotions dans une émission future. En attendant, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous offrir sur la question du minimalisme et de la privation. Pour terminer cette émission, je vous propose quelques astuces concrètes à mettre en place dès maintenant si vous aussi vous souhaitez simplifier votre vie sans privation. La première astuce que j'ai envie de vous proposer, c'est de raviver le plaisir de la veille de Noël ou d'une veille d'anniversaire ou de quelle que soit la fête que vous fêtez dans votre famille, en planifiant vos achats à l'avance. Donc au lieu d'acheter immédiatement quelque chose qui vous plaît, attendez. Mettez-le sur une liste, que ce soit une liste physique ou une liste dans votre tête, peu importe, et laissez le désir se déployer, se exister à l'intérieur de vous. D'abord, dans beaucoup de cas, le désir va probablement s'estomper, parce que souvent on a des impulsions d'achat qui sont immédiates, qui sont liées, comme je disais, à des émotions qui n'ont rien à voir avec l'objet. Et si vous ne cédez pas à l'impulsion immédiatement, dans les jours qui suivent, il est fort probable que le désir d'acheter va s'estomper, en fait, que vous n'en aurez plus envie, donc ça va régler votre problème. Mais dans certains cas, vous allez avoir des désirs d'objets qui vont rester, en fait, que vous allez continuer à désirer au fil des jours, etc. Donc si le cas se présente, eh bien je vous invite à planifier quand vous allez acheter l'objet. Donc allez voir où est-ce qu'il se trouve, où est-ce qu'il peut s'acheter, si vous pouvez aller l'acheter en ligne ou si vous préférez faire le chemin jusqu'au magasin. Et puis vous planifiez, je vais aller l'acheter tel jour, à telle heure, et ensuite profiter de l'excitation, de l'attente à l'idée de bientôt avoir ce nouvel objet. Ça, c'est une première astuce. Deuxième astuce, vous pouvez définir clairement pourquoi vous vous intéressez à la simplicité. Réfléchissez à votre pourquoi. Donc, si la question du pourquoi vous intéresse, j'en parle un petit peu sur mon blog La Nif en l'air ou sur l'autre podcast qui s'appelle Les Bulles Nomades, qui est un petit peu plus sur les coulisses de ma vie, de mon travail, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est un outil très puissant, en fait, de se demander pourquoi. Donc, si vous écoutez ce podcast, je suppose que ça signifie que vous vous intéressez d'une manière ou d'une autre au fait de mener une vie plus simple. Donc, je vous invite à définir clairement pourquoi. Et vous le marquez dans votre smartphone, dans un carnet, sur une petite carte que vous mettez dans votre portefeuille, peu importe où. Mais voilà, peut-être que c'est parce que vous voulez économiser pour un voyage, pour acheter un logement, pour votre famille, ou peut-être que vous voulez économiser pour un projet qui nécessite un investissement, ou alors peut-être que vous préférez consacrer votre temps à autre chose qu'à la consommation. Dans ces cas-là, à quoi avez-vous envie de consacrer votre temps? Réfléchissez un petit peu à ça, explorez un petit peu votre pourquoi, et puis faites-en quelque chose de réduisez-le à son essence, en fait, une ou deux petites phrases qui résument votre pourquoi. Vous avez envie de continuer à mener une vie plus simple et à cheminer vers une vie plus simple et plus minimaliste et moins consommée, etc., etc. Et du coup, une fois que vous avez fait cet exercice-là et que vous mettez votre pourquoi quelque part, vous l'affichez dans votre bureau, vous le mettez dans votre portefeuille, peu importe, eh bien, lorsque vous allez être tenté de céder et d'acheter quelque chose de manière impulsive, ressortez votre pourquoi. Ouvrez votre note sur votre smartphone ou sortez la petite carte de votre portefeuille, peu importe, et relisez votre pourquoi. Et ce qui va se passer, c'est que très souvent, si c'est vraiment un pourquoi qui vous tient vraiment vraiment à cœur, que vous avez vraiment pris le temps d'identifier et de sculpter quelque part, eh bien ça va vous couper l'envie d'acheter. Parce qu'en fait, ce pourquoi, cette raison va être tellement plus important pour vous que le fait d'acheter cette espèce d'objet dont vous connaissiez même pas l'existence il y a 10 minutes, que ça va vous couper l'envie de l'acheter. Je peux vous le dire parce que c'est une technique que j'utilise très très fréquemment, aujourd'hui encore, 10 ans après avoir commencé à simplifier, comme quoi, hein, c'est un chemin permanent, mais voilà, si vous faites ça, vous ne vous sentirez pas privé, puisque vous n'aurez plus envie d'acheter l'objet, grâce au fait que vous vous rappelez de votre pourquoi qui est beaucoup plus important que la consommation. Troisième petite astuce, je vous invite à aller regarder à quoi ressemble un objet de qualité supérieure à ce que vous avez l'habitude d'acheter. Évidemment, sauf si vous achetez déjà des objets de qualité, évidemment. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 10 ans, quand j'étais en voyage d'études au Japon, je me suis retrouvée à acheter des objets, notamment en ce qui concerne les vêtements et les produits de beauté, de meilleure qualité. Parce qu'en fait, les vêtements et les cosmétiques bas de gamme au Japon, j'avais 20 ans à l'époque, hein, donc j'achetais des produits bas de gamme, ne correspondaient pas du tout à mon esthétique. Je sais pas si certains ou certaines d'entre vous sont déjà allés au Japon, vous avez peut-être vu le style des Japonais et des Japonaises notamment, parce que je suis une femme, mais en ce qui me concerne, ça ne me convient pas du tout. J'avais perdu pas mal de poids quand je suis arrivée au Japon, et j'ai dû racheter des vêtements, et en fait je me suis retrouvée quelque part un petit peu coincée, et j'ai dû taper dans une gamme de vêtements supérieure à ce que j'avais l'habitude d'acheter dans mon adolescence et dans mes années de jeune adulte, Et là, je me suis rendu compte de la différence, de la qualité de l'expérience quand vous achetez des sous-vêtements qui sont bien taillés pour la forme de votre corps, quand vous achetez des pulls en cachemire qui sont tout doux et qui sont hyper bien coupés et qui tiennent bien chaud, quand vous achetez, une paire de chaussures qui ne donne pas d'ampoule. Alors que là, je vous donne des exemples qui sont liés à la garde-robe parce que dans mon cas au Japon, le premier domaine dans lequel je suis entre guillemets montée en qualité, c'était la garde-robe. À l'époque, parce que j'avais pas trop le choix. Mais en fait, j'ai vite compris qu'il y a un véritable avantage à se tourner vers des objets de meilleure facture. Et ça, ça concerne pas seulement les vêtements. C'est-à-dire qu'une bonne machine à café va vous faire du café bien meilleur que la machine premier prix qui fait du jus de chaussette. En fonction, voilà, de ce qui est important pour vous, de ce qui fait partie de votre expérience quotidienne. Je donne l'exemple des vêtements parce que nous portons tous des vêtements, hein, n'est-ce pas ? En tout cas, j'espère, sauf si vous vivez dans un camp naturiste. Mais voilà, pour en revenir à l'astuce, je vous invite à aller voir dans un magasin, sans l'acheter, je ne vous invite pas à aller acheter un objet de qualité supérieure tout de suite, je vous invite à aller voir et à regarder à quoi ça ressemble. À quoi ça ressemble une chaussure qui est bien coupée, qui est confortable, à quoi ça ressemble un super pull en cachemire, à quoi ça ressemble une tasse qui est épaisse, qui est hyper confortable à tenir entre les mains, voilà. Et en fait, l'avantage de ça, c'est que ça va vous permettre de vous rendre compte de l'intérêt que vous auriez à investir dans quelque chose de meilleure qualité que ce que vous utilisez aujourd'hui. Et du coup, la prochaine fois que vous allez vouloir craquer sur un objet de ce type-là, mais qui est bas de gamme, par exemple, la prochaine fois que vous allez trouver un joli pull chez H&M, par exemple, mais qui gratte, qui est mal fini, voilà, et que vous allez repenser au pull en cachemire, vous allez vous dire « Ah ouais, en fait, j'ai peut-être pas envie d'acheter ce pull. » Et en fait, ça va vous... En tout cas, ça peut vous aider à avoir moins de désir pour des objets bas de gamme, et peut-être que ça peut vous donner une motivation aussi pour garder cet argent-là et vous le mettre de côté pour pouvoir vous payer un objet de qualité supérieure. Alors je vous invite à aller écouter ou réécouter l'épisode numéro 7 sur l'argent pour définir une fourchette de prix acceptable si vous décidez de monter en gamme dans vos objets, ou bien pour imaginer des solutions pour trouver de la qualité à moindre coût si votre budget est limité, puisque je parle un petit peu de la question de la qualité quand on n'a pas beaucoup d'argent. Puisqu'il y a un mythe qui dit que quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas se payer de la qualité. Je pense que c'est un mythe. Donc écoutez l'épisode numéro 7 si ça vous intéresse. Voilà, donc pour rappel, l'idée n'est pas d'acheter l'objet de qualité tout de suite immédiatement, puisqu'au contraire, je vous invite à économiser, à attendre et à créer une anticipation agréable avant de l'acheter, mais tout simplement de prendre connaissance de à quoi ça ressemble un objet de meilleure qualité. Et peut-être que ça va vous convaincre d'économiser pour un objet comme ça plutôt que de continuer à dépenser tout votre argent dans des objets de mauvaise facture. Enfin, dernière petite astuce, je vous invite à faire une liste des activités que vous aimez faire. Les soirées entre amis, les balades en famille, vos loisirs, vos centres d'intérêt, vos projets, tout ce que vous aimez faire dans la vie. Comment vous aimez passer votre temps? Comment vous passeriez une journée idéale, par exemple, où il ferait beau, où il n'y aurait pas de contraintes? Qu'est-ce que vous feriez? Et en fait, l'intérêt de faire un exercice comme ça, de faire la petite liste, c'est que vous n'allez pas ressentir de privation la prochaine fois que, mettons, un samedi après-midi, vous n'irez pas faire de shopping, puisque vous allez avoir toutes ces idées d'activités qui vous intéressent beaucoup plus que d'aller faire du shopping. Et peut-être que même le fait d'avoir cette liste, ça va vous donner des idées de choses que vous pourriez faire à la place du shopping. Donc non seulement vous achetez moins, puisque vous n'allez pas faire de shopping, mais en plus vous ne ressentez pas de privation, puisque vous n'avez pas envie d'aller faire les magasins. Vous préférez aller faire l'une de ces activités qui vous tient tellement à cœur. J'espère que ces petites idées concrètes vous seront utiles et que vous trouverez de quoi tester dans votre quotidien si le cœur vous en dit. Si vous souhaitez en lire davantage sur le changement de rapport à l'objet, et notamment les bénéfices quotidiens du minimalisme malgré l'apparente privation que l'on pourrait ressentir si on réduit à l'essentiel, je vous invite à découvrir le livre « L'essentiel et rien d'autre » par Fumio Sasaki. Et oui, encore un japonais. Finalement, c'est une philosophie très japonaise de réduire à l'essentiel, donc ça ne m'étonne pas du tout que ce soit un japonais qui écrive ce genre de livre. Alors, je vous préviens... Son intérieur et son mode de vie qu'il présente au début du livre, il y a des photos au début du livre, c'est assez extrême. C'est-à-dire qu'il habite dans un appartement vide, hein, grosso modo, et il déplie un futon pour dormir la nuit. Donc ne vous laissez pas impressionner ou ne fuyez pas en courant quand vous voyez ça. Vous n'êtes évidemment pas obligé de vivre de manière aussi extrême que lui. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est pas forcément... l'extrémité du mode de vie que lui, il a choisi, mais plutôt le fait qu'il partage son expérience autour du minimalisme, quelle vie il menait avant, qu'est-ce qu'il a changé en simplifiant sa vie, et surtout, il a toute une partie du livre qui est sur l'après-changement, parce qu'il y a beaucoup de livres qui se focalisent sur le tri et le rangement, mais qui ne parlent pas du tout de l'après. Alors que dans ce livre-là, donc L'essentiel et rien d'autre, il y a toute une partie du livre où il parle du post simplification quelque part, et où il parle de comment sa vie a été améliorée sur beaucoup d'aspects, et en quoi le fait d'avoir simplifié les choses, c'est loin d'être de la privation. Donc voilà, si vous craignez encore que de simplifier votre vie vous soumettra à la privation et que vous avez quand même envie d'explorer ce mode de vie, je vous invite vivement à découvrir ce livre. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié l'écoute de cette émission. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux @floritaylor ou à passer le mot à vos amis. L'émission Simplicité est mensuelle et je dévoile le thème de la prochaine émission dans les notes de celle-ci sur le site simple-cité.com/009. Dans ces notes, vous retrouverez aussi les idées principales abordées aujourd'hui ainsi que les ressources que j'ai citées. Je vous souhaite une excellente journée, une merveilleuse soirée, merci infiniment de m'avoir écouté jusque-là et à la prochaine !